Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Route de l'esclave, enfin la Côte d'Ivoire. Le grand projet Route de l'esclave, qui a aujourd'hui une dimension mondiale, a été décidé au début des années 1990 à l'initiative d'un certain nombre de pays, des pays africains, mais aussi des pays de ce qu'on appelle la diaspora africaine. Haïti en tête, et ce n'est pas par hasard, puisque Haïti a été non seulement une grande île à esclaves africains après le génocide des Indiens d'Amérique qui vivaient là-bas, mais Haïti a été aussi la grande île africaine qui, la première, a réussi l'insurrection de 1791 qui a chassé les Français de la grande île et qui, du coup, a mise en marche le processus qui va aboutir à l'abolition définitive de l'esclavage sur la terre. Mais l'autre pays qui a été aussi à l'initiative de ce projet était le Bénin, qui venait au début des années 1990 de sortir du système du parti unique, de la dictature, du marxisme-léninisme, sous l'impulsion d'un démocrate, le futur président Nicéphore Soglo. Et donc ces deux États mis ensemble, avec le soutien des pays africains, ont décidé de faire reconnaître ce qu'a été ce qu'on appelle encore la traite négrière, c'est-à-dire en clair la mise en esclavage et la déportation de millions, de dizaines de millions d'Africains vers les Amériques. Mais ajoutons que avant cette déportation transatlantique, il y a eu par l'océan Indien les déportations vers le Moyen-Orient et vers l'Asie, il y a eu par la mer Rouge vers le Moyen-Orient toujours, il y a eu par la Méditerranée vers l'Europe, et il y a eu ensuite par l'Atlantique vers l'Europe méditerranéenne, avant que les routes ne se dirigent vers le Nouveau Monde. Donc c'est une gigantesque affaire, c'est un crime immense qu'on a fini par reconnaître, et donc le projet de la route de l'esclave vise d'abord, sur le plan, disons, moral, sur le plan psychologique et sur le plan politique, à faire reconnaître qu'il y a eu effectivement ce crime. Ensuite, il faut retrouver les traces, parce qu'on a l'impression que quand on dit 100 millions, des dizaines de millions de personnes, on dit c'est pas possible, par où sont-ils passés? Donc il faut chercher les routes de l'esclave sur le continent, mais aussi à travers les océans. Et puis il y a le côté à la fois moral, le côté psychologique, il faut que la mémoire des sociétés parle, une mémoire associée au travail des historiens, des anthropologues, pour rétablir la vérité. La Côte d'Ivoire, enfin, parce que la Côte d'Ivoire vient de se mettre très concrètement dans cette problématique de la route de l'esclave. Au cours du mois de juillet 2017, une grande manifestation a eu lieu au site de Kanga Nyanze, manifestation au cours de laquelle a été lancé officiellement le projet de la route de l'esclave. Et nous recevons à notre micro le professeur Kwame Aka. Bonjour professeur.
Bonjour professeur Elikiem Bokolo.
Vous êtes historien, donc enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, et vous étiez la cheville ouvrière scientifique de ce projet. Alors j'insiste dessus parce qu'on a l'impression que quelquefois les Africains parlent trop de cette affaire, on ne parle pas trop d'une affaire, on parle d'histoire. Et donc Kanga Nyanze, c'est un lieu dont le nom même est chargé de notre problématique. Expliquez-nous un peu le sens de ce double toponyme.
Kanga Nyanze est un nom qui a été donné après, parce qu'initialement le village avait son nom. Lorsque le colonisateur a commencé à circuler dans cette zone de Tiassalé, ils ont demandé, parce que les gens voyaient les files d'esclaves venir se faire nettoyer dans le lit de la rivière, parce que cette rivière, d'après les populations locales, avait beaucoup de pouvoir. Pouvoir de guérir les malades, pouvoir de rétablir, et puis dans le cadre de la traite, pouvoir également de faire oublier son passé. Et donc, Kanga, ça veut dire esclave. Le nom Kanga vient surtout lorsque les Akans ont commencé à acheter des esclaves vendus par les hommes de Samori Touré. Donc, parce qu'il y a plusieurs noms pour désigner ceux qui sont dépendants. Quand on est Kanga quand on est acheté. Et donc, Kanga, c'est-à-dire esclave, Nyanze. Nyanze, c'est le vase dans lequel on prend le bain. Alors, ici, dans ce village, il y a un affleurement rocheux dans le lit de la rivière sur lequel les esclaves se tenaient pour prendre le bain. D'où le nom de Kanga Nyanze. Mais Kanga Nyanze est venu après, lorsque les étrangers ont commencé à savoir, mais en fait, quel est ce lieu? Alors, la population, les gens ont dit non, c'est Kanga Nyanze. C'est là où on lave les esclaves.
Donc, c'est en quelque sorte la dernière porte avant de partir vers la côte pour la déportation.
À Sinwa, on a quelques difficultés parce que tout est lié au peuplement. Les habitants de Kanga Nyanze disent qu'ils sont là depuis le XVIIe siècle. Mais nous savons par la recherche historique que les Abais arrivent dans la région au début du XIXe siècle. Donc, s'ils arrivent au début du XIXe siècle, cela veut dire qu'ils ont dû prendre le train en marche. Ou alors qu'il y avait des populations locales, autochtones, qui avaient commencé déjà à faire ce travail avant que les Abais n'arrivent. Sinon, il y a un petit souci à ce niveau-là que nous devons éclairer en interrogeant les voisins. Lorsque moi j'interroge des gens de ABV, ils me disent, mais enfin, comment ils disent qu'ils sont là depuis longtemps, mais enfin, ils sont partis de chez nous. Ils sont partis de chez nous. Ça fait même pas plus de 100 ans. Nyanda, qui est à côté aussi, c'est vrai qu'ils ont un conflit, mais bon, eux aussi sont étonnés que Kanga Nyanze s'attribue ce rôle. Voilà le problème. Mais pour nous, ce bain est un rappel d'autres bains et d'autres phénomènes de ce genre sur la côte. Ce bain, le dernier bain à Guadrafort, dans le puits, le processus aux mains des féticheurs dans la région du Rio Pongo, ou l'arbre de l'oubli à Ouida, en fait, du moins, dans le dernier village avant la côte Zomadji. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt de ce site. Vraiment, c'est symbolique du déroulement de ce commerce. On aurait pu débuter au port de Cap Lao, parce que c'est la porte de sortie.
Mais en débutant dans ce carrefour, en somme, vous montrez que l'esclavage a été un réseau immense qui remontait loin vers le nord. Les personnes arrivaient à Kanga Nyanze où, en fait, on les fabriquait comme esclaves parce qu'on leur donnait une nouvelle identité en détruisant l'identité ancienne avant d'aller vers Cap Lao.
Voilà, c'est cela aussi qu'il faut comprendre, parce qu'une partie de ces esclaves reste sur place, redistribuée dans la région de Tiassalé, vers le pays Ojukuru, vers le pays Avikam, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ces gens s'intègrent dans leur nouvel environnement, sans chercher à perturber la société et tout ça. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte, outre la question de leur transfert outre-Atlantique.
Professeur Kwame Aka, vous êtes notre invité. Sur cette côte, il y a plusieurs ports de traite, comme on disait. Oui. On ne va pas mener une discussion sur ça, mais Cap Lao, qui est donc le débouché presque normal de cette route de traite, quelle est son importance comparée aux ports voisins depuis le Sénégal, disons, jusqu'au Nigeria?
Vous savez que la traite a progressé de la Sénégambie vers le sud. Donc, au XVIIIe siècle, c'est rarement que les esclaves faisaient escale dans ce qu'ils appelaient le haut de la côte. Donc, la côte Cap Lao est le second port en importance depuis le Libéria jusqu'à la frontière du Ghana actuel. Deuxième, après Cap de Monte. Mais le premier est de loin, derrière les autres ports de la côte ivoirienne. Parce que si vous prenez une carte du 19e siècle, une carte de Sine Bengé, il y a deux couloirs commerciaux qui arrivent sur la côte. Un couloir qui débouche à Tiassalé, qui devient un nœud commercial important et qui a pour point d'aboutissement Cap-Lahou. Et puis l'autre, du côté de l'Est, qui aboutit à Assini. Mais l'importance de Cap-Lahou vient de ce que son arrière-pays est un arrière-pays très peuplé en relation avec les pays du Nord, les Senoufo, les Taguana, les Djimini, et même au-delà. Parce qu'on a vu que les captifs arrivent de très loin, souvent de très très loin. Donc c'est ça qui fait la valeur de Cap-Lahou.
Professeur, vous parlez beaucoup de ce que les gens vous ont raconté. Vous avez fait aussi des enquêtes, on pourrait dire, de type archéologique. Vous avez fait des enquêtes anthropologiques. Vous parlez des sources. Donc ça veut dire que nous avons une très grande diversité de moyens d'information sur cette traite jusqu'ici relativement peu connue, et nous avions tort.
Effectivement, il y a les premières sources qui nous permettent donc d'attester que cette côte-là et ce lieu a été un lieu important. Ce sont d'abord les travaux des historiens. Et puis vous avez les acteurs même de la traite, les récits de voyage fourmis d'informations sur les lieux, tous les lieux où le navire accoste pour faire le commerce. Et puis on a les sources orales, les Africains le long du Bandama qui donnent des informations sur le trafic qui se faisait sur le Bandama, sur le trafic négrier, et qui brandissent, quand vous le demandez, des objets qui datent de cette époque. Donc la recherche archéologique va venir au secours de cette recherche. Et c'est pour ça que nous sommes peinés de voir que les chercheurs d'or sont en train de draguer le fond du Bandama. Il faut pouvoir mettre les archéologues sur ces questions-là. Et même au niveau de Cap-Lahou, vous savez qu'une bonne partie de la vieille ville est sous l'eau. Donc une recherche subaquatique qui va nous permettre certainement de trouver des vestiges, ou même sur l'île même, voir comment on peut pas trouver des éléments. Mais nous n'avons pas encore totalement terminé, parce que les Afés, qui sont les rivaux des Kwanda, n'ont pas été interrogés encore. Ils ont régné sur la lagune Tagba et sur le commerce de cette région pendant plus d'un demi-siècle, puisqu'ils ont chassé les Kwanda. Je pense que c'est une rivalité pour le contrôle de ce commerce et le contrôle du commerce qui se faisait sur la lagune.
Professeur Kwame Aka, à ce que vous dites, on voit que pendant longtemps nous avons eu tort de nous en tenir simplement aux statistiques des négriers, aux récits de ces voyageurs, en pensant que ça nous donnait la vérité sur la déportation des esclaves africains. Maintenant, on voit que la linguistique a son rôle, la mémoire des gens a son rôle, toute une série. Maintenant, vous parlez de recherches subaquatiques. On sait que toute cette côte est menacée par la montée des eaux. Donc ça veut dire qu'il y a là un vivier, j'allais dire, de travail pour les jeunes chercheurs. Mais maintenant, il y a autre chose, c'est l'ADN. Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu à Kanganyanze, nous avons vu des Africains-Américains venus des États-Unis. Nous avons vu aussi des personnes d'origine antillaise vivant en Côte d'Ivoire. Les Américains en particulier disent que par l'ADN, ils peuvent localiser leur origine, mais précisément dans cette région. Donc ça nous donne quand même une piste très remarquable, et ça justifie la problématique de la route de l'esclave.
Oui, et ça, je pense que l'ADN vient vraiment confirmer ce qu'on a toujours pensé, ce que les populations locales même, avant les chercheurs, savaient. Donc les ADN méritent d'être un peu affinés. Parce que pour le moment, on dit ils viennent de Côte d'Ivoire, probablement de telle région. C'est possible qu'on puisse dire ils sont d'origine Dida ou d'origine Agni. On nous a dit que Michael Jackson était de Krinjabo. Donc c'est possible. Ce qui nous intéresse, c'est que déjà, là-bas, il y a des populations qu'on appelle populations Cap-Lahou à l'époque de l'esclavage. Cap-Lahou à la Martinique et à la Guadeloupe. Des Boni en Guyane, des Galous au Mexique, ces genres de populations au Brésil, dans la région de Bahia. sans compter que nous n'avons pas d'informations sur les Antilles hollandaises. Donc, quand on va passer en revue, cette recherche va se dérouler à la fois en Afrique, mais il faut pouvoir consulter les archives de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et probablement aller dans les colonies pour pouvoir regarder. Parce que je pense qu'à la Guadeloupe, dans les fonds notariés, on trouve des éléments.
Je disais en commençant cette émission, enfin la Côte d'Ivoire, parce qu'elle s'y met à fond avec vous, avec toute l'équipe du ministère de la Culture, puisque cette cérémonie de Kanganyanze a été organisée par le ministère de la Culture. Mais on voit en même temps que l'histoire, que beaucoup considéraient comme la science du passé, en fait c'est une science qui nous donne aussi les clés pour ouvrir les portes de l'avenir.
Oui, et les populations locales ont tellement compris qu'il y a même une sorte d'appropriation. Premier cas, Kanganyanze, qui soutient que les captifs sont passés par là, les captifs de la traite atlantique. Il y a Dongbo, qui est un village sur le Bandama. Ils m'ont interpellé pour dire, mais nous, on ne comprend pas, nous sommes là depuis longtemps, bien avant tel autre village, et puis ils sont cités. Donc, il y a une appropriation de cette histoire par les populations mêmes. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est le mélange. Vraiment, la mémoire est complètement perturbée par la traite samorienne. Parce qu'après l'abolition, il y a quand même un commerce négrier important dans nos régions. Ceux qui ne sont pas partis ont été réutilisés sur place. Mais il y a aussi des gens comme Samori Touré, même tous les grands conquérants de la Sénégambie, qui étaient des vendeurs d'esclaves. Et puis, bon, il y a ceux qui ne veulent pas parler, pour des raisons que nous ignorons. Bon, nous avons eu la malchance d'aller à Tamambo avec des gendarmes. Alors, la population a pensé que, bon, venait, s'ils parlaient, on allait les arrêter. Et je pense que les explications de M. le ministre de la Culture et de la Francophonie rassurent. Et quand nous allons la dernière fois à Dabou, on nous a raconté une histoire. Un descendant d'esclaves qui est revenu pour rechercher ses parents, qui étaient bien là dans le village. Mais comme il y a souvent des rivalités de famille, ceux qui ont été contactés, qui ont été abordés, ont fait comprendre que non, ils sont partis, ils ne sont plus ici, alors qu'ils étaient à côté. Donc, il y a beaucoup de choses et quand le ministre dit que nous allons ouvrir un site Internet, c'est des appels à témoins aussi pour que nous puissions vraiment enrichir cette recherche. La particularité de notre route de l'esclave, c'est que, contrairement au Bénin qui s'est limité à la côte, Ouidda à la côte, nous n'avions pas de port. Donc, nous ne pouvons pas faire comme eux. Nous sommes obligés de chercher depuis l'intérieur, comment ils sont arrivés jusqu'à la côte. C'est ça que nous essayons de faire. Donc après l'axe du Bandama et les routes qui sont devenues par la suite la route du Baoulé. Les Européens, les Français ont baptisé cette ancienne route tracée au XVIIIe siècle la route du Baoulé. Et nous savons qu'avant même la traite, il y a un commerce entre Cap Blaou et l'intérieur du pays. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Je pense qu'il va falloir mettre beaucoup d'étudiants sur un certain nombre de sujets, bon, dans des sections de côtes ou même sur ces routes pour qu'on puisse vraiment travailler.
Voilà un appel qui sera entendu. Donc, enfin, la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui commence cette grande aventure intellectuelle, mais aussi politique, morale, dans le bon sens du mot, pour faire connaître aux uns aux autres ce qu'a été le drame de la traite des esclaves. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat